Je vous invite à tourner donc dans vos Bibles en Colossiens 1, les versets 9 à 14 de la page 227. Avant d'écouter cette lecture, nous prions Dieu. Notre bon Père, à cause de notre nature pécheresse, nous ne sommes pas dignes que la terre nous soutienne. Nous ne sommes même pas dignes de lever nos yeux au ciel à cause de nos fautes. Mais nous te prions de ne pas détourner ta face de nous, de regarder non pas à nous, mais à ton Fils unique, bien-aimé, notre Sauveur, car nous sommes cachés en lui par la foi, nous sommes unis à lui par la foi. Nous désirons en ce jour qui est le tien nous reposer de nos œuvres, ce jour que tu as sanctifié et te laisser besogner au-dedans de nous, au plus profond de nos êtres intérieurs. Parle-nous, nous t'en supplions, notre Dieu, transforme-nous pour que nous soyons entièrement obéissants et soumis à ta volonté. Ainsi, toi, tu seras glorifié et nous, nous serons heureux. Fais-nous du bien, ô Éternel, car nous nous réfugions auprès de toi et nous nous attendons à ta parole. Amen. Écoutons ensemble Colossiens 1, 9 à 14. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Un homme a raconté de la manière suivante comment il s'est senti après avoir mis sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Il dit, « Je suis sorti de ma chambre. Je trouvais que le soleil brillait beaucoup plus fort que jamais auparavant. J'avais même l'impression que le soleil me souriait. Puis je me suis mis à entendre les oiseaux chanter dans les arbres. Et j'avais l'impression qu'ils chantaient tous pour moi. » Avant ce jour-là, je ne me souciais aucunement des oiseaux. Mais depuis ce jour-là, je les aime beaucoup. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de sentiments amers envers qui que ce soit. Et je voulais serrer tous les êtres humains dans mes bras. J'aime ce témoignage. Ce témoignage illustre la joie, avec des lettres majuscules, le bonheur d'être pardonné, d'avoir trouvé le Sauveur. Quelle joie, quel bonheur, la joie du pardon, le bonheur d'être pardonné. Je trouvais que le soleil brillait beaucoup plus fort que jamais auparavant. J'avais l'impression que le soleil me souriait. J'avais l'impression que les oiseaux chantaient pour moi. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de sentiments amers envers qui que ce soit. Je voulais serrer tous les êtres humains dans mes bras. La joie immense de se savoir pardonné par Dieu. La paix que ça procure, le soulagement, le bonheur. L'apôtre Paul nous parle de ce grand bonheur ici, dans les versets qui sont devant nous ce matin en Colossiens 1, les versets 12 à 14. Je relis le verset 12. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu vous a rendu capable. Autrement dit, sans lui, sans son action, vous étiez incapable. Incapable de quoi? Incapable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Incapable d'avoir cette vie éternelle. Vous ne pouviez pas, et si Dieu n'était pas intervenu gracieusement en votre faveur, vous seriez encore plongé dans les ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui s'illusionnent et qui pensent qu'elles sont capables par elles-mêmes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Elles pensent qu'elles peuvent réussir à être à la hauteur de ce que Dieu demande. Elles pensent qu'elles peuvent agir ou vivre d'une façon à mériter d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais elles se trompent. Elles se trompent. La confession de foi de La Rochelle dit que en nous-mêmes, nous sommes dignes d'être haïs de Dieu. En nous-mêmes, nous sommes en dégoût à Dieu à cause de notre nature pécheresse. Depuis quand? Depuis notre conception. Au psaume 51, au verset 7, David écrit « Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. » Marqué par le péché, plongé dans le mal, comment pourrions-nous avoir accès à la vie éternelle avec ce Dieu qui est saint? C'est une mission impossible pour nous. La nature humaine déchue avec laquelle nous sommes nés n'est pas capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes pas qualifiés pour ça. Nous sommes entachés du péché originel d'Adam auquel nous ajoutons toutes nos fautes continuellement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous rend capable. Nous sommes inaptes, mais Dieu nous rend aptes. Il nous rend capables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il donne la repentance et la foi salvatrice à ceux pour qui le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix. Ce qui est le plus étonnant dans l'Évangile, ce n'est pas que nous acceptons le Seigneur, c'est que Lui nous accepte. C'est que Dieu lui-même donne la repentance et la foi pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est donc l'activité divine, l'action divine que nous célébrons. C'est ce Dieu gracieux que nous célébrons avec joie. « Rendez grâce, dit Paul, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » En 2 Corinthiens 3, Paul dit « C'est Dieu qui nous a rendu capable. » Notre capacité vient de Dieu. Par ce verset 12 ici, l'apôtre Paul, qui est inspiré de Dieu, abat l'orgueil de ceux qui pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Et met l'accent sur le fait que le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu du début à la fin. Et donc, par conséquent, c'est Dieu que nous louons, que nous célébrons. Au psaume 44, le verset 4, il est écrit « Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas par leurs bras. Ce n'est pas leur bras, leur force qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, ô Éternel, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu leur étais favorable. » Ce que le psalmiste dit dans ce psaume s'applique tout à fait à la rédemption qui est la nôtre en Jésus-Christ. Paul écrit en 2 Corinthiens 4, 6, « Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, Paul a raison, en poursuivant sa prière aux Colossiens, de dire « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Regardez ensuite le verset 13. Magnifique verset. « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Le pouvoir des ténèbres. Quelle expression terrible! Ténèbres est un mot qui est toujours au pluriel et qui nous amène à cette idée de la noirceur, de l'obscurité, n'est-ce pas? L'apôtre Paul et tous les autres écrivains de la Bible et le Seigneur Jésus lui-même ont enseigné la réalité de la puissance des ténèbres qui rend le monde esclave du mal et du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pouvoir des ténèbres a été vaincu par le Fils bien-aimé de Dieu. Pour le vaincre, le Fils bien-aimé de Dieu a, et je le dis avec adoration, en quelque sorte, entré dans un sens, dans cette puissance pour aller la vaincre et la renverser à la croix. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu était le seul qui pouvait affronter le diable et le vaincre, faire en sorte que cet ennemi ne pourra jamais détruire les rachetés du Seigneur. Lorsqu'il a été arrêté, Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens, « C'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Les forces du mal se déchaînent contre le Fils de Dieu. » Puis, alors que Jésus est abandonné sur la croix, Matthieu 27, 45 nous dit, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Un phénomène insolite, puisque selon notre façon de compter les heures, c'était de midi à 3 heures, au moment du jour où le soleil est particulièrement à son zénith. Et voici que c'est la noirceur, les ténèbres pendant 3 heures sur toute la terre. Un peu comme si Dieu voulait tirer un voile sur les souffrances extrêmes de son Saint-Fils pour que les hommes ne puissent pas voir ce qui se passait à ce moment si ténébreux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, vous le savez. Le Fils de Dieu, le prince de la vie, a remporté la victoire sur le prince des ténèbres et par sa résurrection glorieuse, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ce qui fait dire depuis des siècles au peuple de Dieu, « Alléluia, loué soit le Seigneur pour sa victoire. » Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, dit Paul. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Délivrés, transportés, quel déménagement, n'est-ce pas? Nous étions dans une noirceur sans espoir et misérable. Nous étions enchaînés par nos péchés dans la prison de Satan. Seule une œuvre rédemptrice, glorieuse, puissante, pouvait nous émanciper de ce trouble épouvantable et Dieu l'a accompli, cette grande œuvre, en son Fils. Nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les gens de l'époque avaient coutume de bien comprendre cette idée d'un conquérant qui venait dans une région, prenait le peuple et l'amenait en captivité, en exil au loin, en esclavage. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Le roi de Babylone arrive, s'empare de Jérusalem, prend les habitants de Jérusalem et les amène à Babylone. Il déménage le peuple en captivité. Il prend un peuple libre qui l'amène en esclavage. Ce que le Fils de Dieu fait pour nous, c'est l'inverse. C'est comme l'exil à l'envers. C'est qu'il nous prend esclaves du péché et il nous amène dans son royaume d'amour et de liberté. La Bible dit « Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. » Vous voyez, c'est la façon nouvelle que nous avons de vivre et de nous conduire maintenant. Que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous sommes dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, ce royaume de lumière. Maintenant, nous devenons et nous sommes ce que Dieu nous fait être en Jésus-Christ, des enfants de lumière. Par l'union avec le Fils de Dieu, nous sommes appelés à devenir et à être ce que nous sommes dans l'union avec Jésus-Christ. Fils de Dieu a remporté la victoire, mais ça ne veut pas dire quand même que jusqu'à la fin de notre vie, il n'y a pas un combat à livrer, une lutte à livrer avec les ténèbres. Et c'est pourquoi Paul dit ceci en Éphésiens 6, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. » Vous vous souvenez, en Colossiens 1, 11, on a parlé de sa force glorieuse. « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous avons lutté contre les dominateurs des ténèbres. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre Sauveur a vaincu la puissance des ténèbres, le pouvoir des ténèbres. Et donc, ça nous donne beaucoup de courage et de confiance. Et en même temps, nous voulons nous emparer des armes que Dieu nous donne pour pouvoir repousser cet ennemi jusqu'à la fin. Et comme dit Paul, tout surmonter. C'est une grande responsabilité que nous avons d'appartenir au royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Nous ne voulons pas le mépriser par notre vie. Nous voulons marcher pour lui plaire à tout point de vue. Nous avons vu ça en Colossiens 1, 10. Lui plaire à tout point de vue. Cette semaine, dans les médias, il y a quelqu'un qui a une grande influence au Québec qui a dit, moi, je suis revenu à la conclusion que la chose la plus importante dans la vie, c'est de se plaire à soi-même. Quand on est dans les ténèbres, c'est comme ça qu'on parle. Mais quand on est dans la lumière, on ne parle plus comme ça. Quand on est dans la lumière, on dit la chose la plus importante de toutes, c'est de plaire au Seigneur, à tout point de vue. Du mieux, du plus qu'on peut, parce qu'il est tellement bon de nous avoir fait vivre son pardon et son amour que nous voulons désormais lui plaire de plus en plus. Est-ce que ce royaume est présent maintenant ou est-ce que c'est un royaume futur? En principe, les Colossiens et nous aussi, nous sommes déjà dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Mais la possession pleine et entière est encore à venir. Écoutez le catéchisme de Adelberg à la question 58. Quelle assurance te donne l'affirmation de la vie éternelle? Si, à présent, j'éprouve dans mon cœur le commencement de la joie éternelle, j'en aurai la plénitude après cette vie. La plénitude après cette vie. Maintenant, j'en ai le commencement dans mon cœur, mais la plénitude après cette vie. Nous sommes, comme disent les théologiens depuis longtemps, dans le « déjà » et le « pas encore ». Nous attendons, nous espérons, nous sommes en route, nous sommes remplis des promesses et des certitudes de Dieu, mais nous attendons encore la jouissance pleine et entière de ce grand salut. Le monde entier, avec toute sa soi-disant sagesse, n'est estimé autre chose aux yeux de Dieu que ténèbres, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de véritable lumière. Nous sommes soit dans leur royaume, des ténèbres, soit dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité ou de région neutre. L'apôtre Pierre écrit que ceux qui repoussent Dieu vivront dans l'obscurité des ténèbres pour toujours. Elle leur est réservée. Ceux qui croient sont maintenant et pour toujours bien-aimés de Dieu. Nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous aime bien, il nous bien-aime, parce que nous sommes unis à son Fils. Il mène tout à bonne fin pour nous. Autrement qu'en son Fils, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, mais unis à son Fils, nous sommes agréables à Dieu. Dieu nous a placés dans le royaume de son amour, dans le royaume de son pardon, là où l'amour et le pardon abondent et surabondent. Qu'est-ce que nous voudrions de plus que ce bonheur? Tout ceci est grâce à Jésus-Christ. Et Paul dit au verset 14, « En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Le mot « rédemption » n'est pas un mot que nous utilisons souvent. C'est un mot qu'on n'entend jamais dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? La rédemption, c'est l'acte qui permet de libérer un esclave par une rançon. L'acte qui permet de libérer un esclave par une rançon. Nous étions esclaves de quoi? Nous étions esclaves du péché. Qui a payé une rançon pour nous délivrer? C'est le Fils de Dieu. Quelle rançon a-t-il payé pour nous délivrer? Le don de sa vie. Écoutez-le lui-même nous le dire en Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'apôtre Paul écrit en 1 Timothée 2. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme qui s'est donné lui-même en rançon. Jésus s'est donné en rançon pour notre rédemption. Dans l'alliance de grâce, il s'est engagé à obéir parfaitement à la loi de Dieu à la place de son peuple et de subir le châtiment que nous méritons à cause de nos fautes. Lui qui est saint, séparé des pécheurs, dit l'Épître aux Hébreux, lui qui est immaculé, parfait, il a accepté de prendre sur lui notre châtiment et de nous donner sa justice pour que nous puissions avoir cette rédemption en lui. En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous sommes rachetés du pouvoir des ténèbres. Nous sommes faits membres de cette alliance spéciale et nouvelle qui se trouve en Jésus-Christ. Nous avons désormais part à toutes sortes de bénédictions liées à la vie dans l'Alliance, la principale bénédiction étant le pardon de toutes nos fautes. Quelle réponse convient-il de donner à un tel amour si ce n'est pas une vie de reconnaissance, une vie dans laquelle nous voulons plaire au Seigneur, le servir, le célébrer? Avec joie, rendez grâce, dit l'apôtre Paul, et il a raison de le dire. Avec joie, rendez grâce. Plusieurs personnes trouvent insupportable de parler du péché ou d'entendre parler du péché et de nos fautes et de la culpabilité. Ce sont des notions qui dérangent beaucoup de monde. Beaucoup de personnes aimeraient qu'on n'utilise jamais ces mots-là, par exemple, dans l'éducation des enfants. Jamais parler des fautes, des manquements, des péchés, de la culpabilité. Selon eux, si on évitait tout ce vocabulaire et toutes ces réalités-là, on pourrait éviter un traumatisme psychologique aux enfants et on ferait d'eux des adultes décomplexés. On entend beaucoup cette façon de voir les choses, mais ce n'est pas la façon dont le Créateur parle dans sa parole. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu veut qu'on agisse, qu'on reçoive sa vérité et qu'on la transmette aux autres, à nos enfants. Ce que certains appellent le pessimisme de la Bible au sujet de l'homme n'est pas vraiment un pessimisme, dans la mesure où le tableau que la Bible nous donne n'est pas là pour nous figer, nous restreindre et nous décourager, mais c'est pour nous préparer à la réception du salut qui est en Jésus-Christ. La Bible veut nous montrer, au fond, de quelles ténèbres, de quelles perdition, de quels abîmes Dieu nous délivre en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et pour voir ça, nous avons besoin de voir notre véritable condition devant l'Éternel. Si l'Église a reçu la mission de la part de Dieu de parler du péché, du jugement, c'est pour faire prendre conscience à ceux que Dieu appelle au salut de l'immense délivrance que Dieu nous apporte par son Fils bien-aimé. De tout ce que nous avons vu ce matin dans ces trois versets, qui sont magnifiques, découlent plusieurs applications pratiques pour nous. J'en ai soulevé quelques-unes. J'en soulève quelques autres pour conclure. Premièrement, soyons puissamment réconfortés par ces vérités. Nous n'avons plus à craindre la condamnation que mérite nos imperfections, nous avons la rédemption, le pardon des péchés, acquis pour nous, une fois pour toutes, par le Fils de Dieu. Quelle réconfort, quel véritable repos. Deuxièmement, soyons remplis d'espérance. Puisque le Fils de Dieu a fini son œuvre à la croix pour nous, il va finir son œuvre en nous. S'il s'est donné en rançon lui-même pour nous sauver, ce n'est pas par la suite pour nous laisser tomber, nous abandonner et faire en sorte qu'on va périr. Non, non, non. Il a accompli, terminé parfaitement son œuvre à la croix. Il va accomplir, terminer parfaitement son œuvre en nous pour nous amener à la destination qu'il a prévue pour nous. Donc, quelle espérance ça nous donne. Troisièmement, il y a un avertissement ici pour nous dans ces versets. Ne mettons pas notre confiance ailleurs qu'en Jésus-Christ pour notre salut, pour notre vie. Ce serait vraiment dangereux et ce serait un mépris de l'œuvre de Jésus-Christ. Voici comment le pasteur Samuel Rutherford a illustré cette vérité dans ce passage d'un de ses livres, passage bien connu. Réjouissez-vous que votre trésor est dans le ciel. Ne bâtissez pas votre nid sur aucun arbre ici-bas, car Dieu les a tous vendus à la mort. Ceux sous lesquels nous voudrions prendre un peu de repos vont être renversés. Il nous faudra les quitter les uns après les autres et monter enfin sur quelques rochers pour y placer notre habitation. Ce rocher, c'est le Christ. C'est en Jésus que doit être notre confiance tout le temps. Quatrièmement, n'hésitons pas à suivre Dieu à 100%. Nombreux sont ceux, et ça nous arrive tous un jour ou l'autre, qui hésitent à se livrer complètement à Dieu, à aller faire la volonté de Dieu, parce qu'on pense que peut-être on va être malheureux, qu'on ne sera pas vraiment épanoui, on a des hésitations à obéir, à se livrer entièrement à Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut redouter d'un Dieu si bon, qui nous a montré un si grand amour, d'une façon si évidente, en livrant son Fils pour notre rédemption? Qu'est-ce qu'on peut redouter de lui? Rien! N'hésitons pas à nous livrer à lui à 100%. Cinquièmement, soyons vigilants pour ne pas nous laisser séduire par notre ancien maître et nous replacer dans quelque esclavage que ce soit. Sixièmement, quand nous souffrons, n'allons pas penser que c'est parce que Dieu ne nous aime pas, ou qu'il nous aime moins, ou qu'il ne nous aime pas assez, ou pas assez bien. La Bible nous dit qu'il nous aime avant même la fondation du monde, qu'il nous aime toujours, qu'il nous aime parfaitement, qu'il nous aimera toujours jusqu'à la fin et qu'il mène toutes choses à bonne fin pour nous. Donc, lorsque nous souffrons, nous devons revenir à la croix, à la rédemption que le Fils nous a acquis et trouver là la certitude absolue que Dieu nous aime. Septièmement et finalement, ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous, mais transmettons-la au plus grand nombre de personnes possible. Le Fils de Dieu a dit en Marc 5, « Va auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a usé de miséricorde à ton égard. » Voilà ce que nous devons faire. Amen.